Mensura, parce que le Tazria, on a souvent parlé, le début de Tazria. On va parler effectivement de des problèmes de Tzaraat. Et je vais d'abord ramener un enseignement du Meshech Chochma concernant justement ce sujet de Tzaraat, où le Meshech Chochma explique que il y a là quelque chose qui est frappant, mais ça frappe tout le monde. Vous voyez qu'il y a deux parchiotes consacrées quasiment à ce sujet. C'est assez énorme de consacrer tant de psukim, de temps en quelque sorte à ce sujet, qui est finalement un sujet qui concrètement pendant très peu de temps concernait les Bnei Israël, parce qu'on a eu cette Tzaraat que quand on était très proche d'Hachem, il faut être proche d'Hachem pour mériter ce traitement de Tzaraat. Le Meshech Chochma dit Inyan ha-Negaïm, le sujet des Negaïm, donc de ces un Nega, c'est là, en l'occurrence, c'est une plaie souvent on appelle ça de la lèpre, parce que on parle des négaïmes qui frappent la peau, qui se manifestent sur la peau. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la maladie qui s'appelle lèpre. Mais bon, on n'a pas de, on devrait dire manifestation sur la peau, par exemple, parce que il n'y a pas que sur la peau. On va voir ça tout de suite. Donc, en fait, il dit, ou misitrei Torah. Ça fait partie des secrets, donc, de ce qu'on comprend pas du tout dans la Torah. Asher atuma ve'atahara talui bekohen. Un des paradoxes, c'est justement que tout dépend de la parole du Kohen. La pureté ou l'impureté de la personne dépend de la parole du Kohen. Bien sûr, le Kohen se base sur ce qu'il voit, mais tant que le Kohen n'a pas parlé, on n'est pas concerné par cette Touma et Tahara. Et alors, pourquoi est-ce que c'est lié avec Aaron HaKohen? Il dit que il faut dire que les Negaïm, alors c'est assez étrange, il dit c'est Machala Amdabeket, c'est une maladie en fait très contagieuse, au point que dans la Gemara, dans le Midrash Rabbah et dans la Gemara, dans Marot en Ktubot, on voit que quand quelqu'un était frappé par le Tzaraat, par cette Touma, il devait crier en vérité pour mettre les gens à distance, on connaît la distanciation, mettre les gens à distance en disant Tamé, Tamé, je suis Tamé, ne vous approchez pas. Parce que s'occuper en vérité, de ce problème de Touma et de Tahara, dit le Meshech Chochma, it askut bo, c'est dangereux. Nifla'a, ratiot. Il faut une hashgacha, une providence toute particulière, extraordinaire, de telle sorte que celui qui s'en occupe ne soit pas pris, ne soit pas contaminé en quelque sorte. Il faut qu'il soit séparé. De telle sorte que le néga ne le frappe pas. La reine, dit-il, Bachra Torah, la Torah a choisi les Bnei Aaron, qui eux sont Nivdalim, ils sont séparés des autres Bnei Israël, et ils ont une Ashgacha particulière, parce qu'ils sont séparés en tant que Kohanim, comme c'est marqué dans un pasouk dans Divrei Hayamim, c'est marqué Vayavdel Aaron lehagdisho Kodesh Kodashim. Hachem a séparé Aaron, il l'a sanctifié, il est Kodesh Kodashim, saint des saints en quelque sorte. Kodesh Boko a créé Moshe et Aaron, il l'a séparé, donc même de Moshe. Donc c'est ça que je voulais ramener du Meshech Chokhma. On ne va pas entrer dans les détails, en tout cas il faut juste entendre ce que dit ici le Meshech Chokhma. Il s'agit de quelque chose de tout à fait extraordinaire. On sait très bien que ça a été donné aux Kohanim parce que les Kohanim ont un statut déjà qui les sépare des autres. Et du coup, on peut les surveiller. Le pasouk dans Divrei Hayamim qu'on a cité, il dit complètement Bnei Amram. Les fils d'Amram, c'est Aaron ou Moshe. Vayavdel Aaron l'Agdisho Kodesh Kodashim. Donc, vraiment, la séparation, la Kedusha particulière d'Aaron, elle est par rapport à Moshe aussi. Bon, il est même séparé complètement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, il n'est pas Kohen. Ça, c'est donc une chose importante à savoir. On va entrer un peu plus dans le détail. Alors, on va commencer de la manière suivante. Le cas classique dans la Torah de Tzarat, c'est la Tzarat de Myriam. C'est très connu. Aaron et Myriam ont dit du Lashon Hara. Alors, ça c'est connu, je pense, de vous toutes, que le Tzarat vient à cause du Lashon Hara. Il vient sanctionner la faute Lashon Hara. Alors, pour que ce soit bien clair, il y a trois sortes de Tzarat. Il y a un Tzarat qui frappe la peau, un Tzarat qui frappe les vêtements et un Tzarat qui frappe les maisons. Si vous voulez, les trois enveloppes du corps humain, la peau, le vêtement, la maison, sont frappées, le cas échéant, par Tzarat. La maison, frapper la maison, c'est le plus léger d'une certaine manière. Si on n'entend pas le message, il faudrait expliquer tout ça, quand on n'entend pas le message qu'il y a sur le problème de la maison, alors ce sont les vêtements qui sont touchés. Si on n'entend toujours pas, c'est la peau elle-même qui est touchée. Donc, Moshe Rabbeinu au Sinaï, comme tous les Bnei Israël, vous vous souvenez, on va le revoir à Shavuot, mais on l'a déjà vu dans les Psukim, quand Hachem a annoncé qu'il allait parler au Sinaï, il a dit à Moshe Rabbeinu que de veiller à ce que les Bnei Israël se séparent de leurs épouses pour être dans un état de pureté. Alors, c'est le fameux Ayom ou Machar, aujourd'hui et demain, ce qui a donné lieu au jour supplémentaire que Moshe Rabbeinu a ajouté, dont on a souvent parlé. Donc, il y avait une séparation. Cette séparation, elle était nécessaire parce que Hachem allait parler aux hommes, aux êtres humains. Hachem parle, on doit se préparer, et la préparation, c'est se mettre dans un état de pureté. Mais après qu'Hachem ait terminé de parler, il a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Bnei Israël qu'ils retournent chez eux et qu'ils ont le droit de reprendre la vie conjugale normale Mais toi, Moshe, tu restes avec moi. Et le Moshe Rabbeinu n'a pas reçu l'ordre, donc il n'a pas eu la permission de reprendre une vie conjugale normale, courante. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Myriam, elle a entendu une remarque de la femme de Moshe Rabbeinu, de laquelle elle a déduit, que, avec raison d'ailleurs, que Moshe Rabbeinu s'était séparé de son épouse. Et donc, elle en a parlé avec Aaron. Ils ont dit du mal de Moshe en disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui se sépare de son épouse? Ça l'a fait souffrir. Nous aussi, on est prophètes et nous, on n'a pas jugé nécessaire de nous séparer de nos conjoints. On vit une vie normale. Pourquoi est-ce que lui, Moshe, impose à son épouse une vie anormale, en quelque sorte? Alors, bien sûr, donc, ils ont dit du mal de Moshe. Ce qu'ils disaient n'était pas faux. Seulement, ils n'ont pas compris pourquoi Moshe le faisait. Et donc, ils se sont fait remonter les bretelles, comme on dit, sérieusement par Hachem. Et la conséquence, c'est que, comme la Torah nous le dit, Myriam s'est retrouvée metzorahat. C'est-à-dire, Myriam s'est retrouvée couverte de cette fameuse lèpre. Et là, il y a premièrement une question, c'est elle, Myriam, elle a dit du Lashon Hara. Et Aaron, il a reçu le Lashon Hara. Comment se fait-il que Aaron n'a pas lui aussi été couvert de cette lèpre? Parce que Chazal dit que non seulement on n'a pas le droit d'entendre du Lashon Hara, mais d'après certains, c'est même plus grave de l'entendre, donc de l'accepter, que de le dire. Donc, Aaron aurait dû être sanctionné. Là, il y a eu, semble-t-il, une injustice. Alors, en fait, dans la Gemara, il y a une discussion et on dit que Aaron, lui aussi, il a été frappé par le tsarat, sauf que lui, il a été guéri immédiatement. Être frappé par un tsarat et guérir immédiatement, c'est arrivé à Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez que quand Moshe Rabbeinu a refusé d'aller s'occuper de libérer les Bnei Israël en Égypte, et il a dit, les Bnei Israël ne m'écouteront pas, ça ne sert à rien que j'aille leur parler, ils ne m'écouteront pas. Et ça, c'est considéré comme du Lashon Hara, et Hachem lui a dit, mets ta main dans mon sein, et quand il a ressorti, elle était couverte de lèpre. Et Hachem lui a dit, remets la main, et elle était redevenue normale. Donc, il a été frappé de Sarat, et il a guéri immédiatement. Alors, on va reprendre. Il y a une Mishnah qui dit « Akol ksherim lirot et angaim » tout le monde pourrait regarder, c'est-à-dire décider si les négaïm sont des négaïm, si ce qu'on voit sur la peau, par exemple, est-ce que c'est un néga ou est-ce que c'est une maladie? On peut avoir une maladie de peau sans que ce soit le tsarat qui rend impur. Et là, chez Atuma et Atahara, Bihide Kohen. Sauf que le problème de Touma et de Tahara a été mis dans les mains des Kohen, c'est ce que le Meshech Chorma nous a dit, c'est fait partie des citrés Torah, des secrets de la Torah. Pourquoi est-ce qu'effectivement ça a été mis dans les mains des Kohanim? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ça correspond au fait qu'il y a une possibilité de Hashgaha Pratit particulière sur les Kohanim. Omrim, lo, c'est-à-dire on dit au Kohen, Emor Tameh, ou Omer Tameh. On lui dit, dis que c'est impur, Il le dit et la chose est impure. Et ensuite, dans la procédure de purification, on lui dit « dis que c'est pur » et il dit que c'est pur, ça devient pur. Ça veut dire, reprenons ça, qu'est-ce que ça veut dire que la Touma et la Tahara sont confiées au Kohen? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça dépend de la parole du Kohen? Pourquoi est-ce que ça ne dépend pas des Chachamim qui, eux, savent, ils connaissent, c'est compliqué les énigmes de Negaïm. Non seulement on en parle beaucoup dans la Torah, mais il y a tout un traité assez long de Mishnayot sur Negaïm qui entre dans toutes sortes de détails. C'est un sujet très difficile. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'en remet pas, justement, au Talmidei Chachamim pour venir et vérifier, dire si c'est oui ou non, un sarat ou pas? Maintenant, pourquoi en particulier ça a été donné à Aaron? Il s'est présenté à Aaron et ses fils. C'est lui, Aaron ou Banav. Bien que, comme on a vu, Aaron lui-même, il a commis la Shonara, il a dit la Shonara contre son frère Moshe. Alors, effectivement, on peut regarder les choses et, d'une certaine manière, à partir de ce qui s'est passé avec Myriam, on peut un peu avancer un peu dans la compréhension. Donc, je vous ai fait remarquer donc, que seule Myriam semble, enfin, a été, la Torah a dit que seule Myriam a été frappée par une sarat qui a duré et elle a eu besoin de 7 jours pour s'en remettre. 7 jours, c'était encore un privilège, c'est parce que Moshe Rabbeinu a prié pour elle. Ça aurait dû durer le double. Alors qu'Aaron, lui, bien qu'il ait reçu la Shonara, ce qui est, comme je vous ai dit, une avéra qui est au moins aussi grande, et pour certains, les plus importantes même que de le dire, il a, semble-t-il, pas été frappé. Mais en réalité, je vous ai dit, dans la Gemara, il y a une discussion entre les Amoraïm, maîtres de la Gemara, pour savoir si Aaron a été ou non frappé de Tsaraat. Mais même celui qui dit qu'Aaron a été frappé de Tsaraat, néanmoins, il a été immédiatement guéri. C'est-à-dire, en fait, avant même qu'il ait eu la possibilité de voir que Myriam était frappée de Tsaraat, lui, il a déjà été guéri. C'est pour ça que quand il voit Myriam et il voit que lui n'a plus de traces de Tsaraat. C'est marqué « Vaïfen Aaron » El Myriam, il s'est tourné, Aaron s'est tourné vers Myriam. C'est-à-dire, en vérité, Chazal dit, Vaïfen, il s'est tourné de son tsarat à lui et il a regardé le tsarat de Myriam. Bon, il faut comprendre pourquoi Aaron a été frappé de tsarat et il a guéri tout de suite et pourquoi Myriam pas. Il y a ici un grand yosod, semble-t-il, qui est que les Negaïm doivent être entendus non pas comme une sanction, mais plutôt comme un message. On dit à quelqu'un, Hachem dit à quelqu'un, il est sur la mauvaise voie. Il dit, voilà, tu as commencé à dire du Lashon Hara, je t'arrête tout de suite, arrête tout de suite et prends conscience de ce que tu es en train de dire du Lashon Hara. C'est pas toujours évident d'être conscient qu'on dit du Lashon Hara. Ça fait partie des choses qu'on dit très souvent sans rendre compte. Alors, puisqu'il s'agit d'un message, il faut entendre le message et il faut faire tchouva sur ce que nous dit le message. Et comme justement il y a un décalage entre la manifestation sur la peau, par exemple, de la tzaraat, et la déclaration qui dit que ce tzaraat, c'est une touma, qu'on est impur avec ça, puisqu'il faut que le Kohen vienne et constate. Qu'il vienne ou qu'on aille chez lui, ça on verra. Mais il faut donc, il y a un laps de temps entre le moment où on est frappé par le tzaraat et le moment où ce tzaraat est déclaré touma. Donc dans ce laps de temps, il s'agit de prendre conscience qu'il y a là un message, et le message, Chachamim nous ont dit, le problème c'est, voilà, quelqu'un il est frappé de tzaraat, alors voilà, comment il interprète ce message? Il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est quoi? Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle a discuté longuement, on parle, et on dit ça vient pour un problème de la Shonara. Donc c'est facile. Tzaraat, tu sais que ça vient pour la Shonara, et le Lashonara, c'est extrêmement grave, on va y venir, et par conséquent, il faut que tu fasses tshuva d'urgence. Mais si quelqu'un fait tshuva avant la venue du Kohen, quand le Kohen arrive, même si on est allé le chercher, quand le Kohen arrive, ben, il n'y a plus rien. Le tzaraat s'en va. Parce que j'ai lu le message, je n'ai plus besoin du message. Je peux jeter ce message, il a été lu. Bon. Et donc, envoyer Mina Shamaim un signe, un message, un site qui dit « Fait Tshuva ». Et on sait très bien qu'Hachem, ce qu'il désire, c'est qu'on fasse tshuva. Dans la tfila de Yom Kippour, on dit que même des rechaïm, Hachem ne veut pas du tout les détruire, il veut seulement qu'ils fassent tshuva. Alors ça, justement, la puissance d'Aaron, c'est de le comprendre. Immédiatement, quand il a été frappé, il a tout de suite compris ce qui se passait. Et il a fait tshuva. Alors, comment on fait tshuva? Comme vous savez, la tshuva, ça commence par un bidouille. Bon, il y a une confession devant Hachem. Et il a dit, c'est ce qui est écrit dans la Torah, « Alna tachet alinu chatat, asher no alu asher chatanu. » Donc, il a fait tshuva, cette parole-là de vidouille, de confession. Il y a eu la confession et il a fait tshuva. Il s'est repenti de la faute qu'il avait commise. Et puisqu'il a compris immédiatement ce qui se passait, ce que venait lui enseigner la tzaraat, donc, il n'y avait plus besoin qu'il reste dans cet état de tzaraat. C'est pourquoi il a immédiatement guéri. Par le mérite de cette compréhension d'Aaron, qui a immédiatement compris ce qu'on lui demandait, ce que voulait dire cette tzaraat, alors il a été choisi. Et sa descendance pour être puisque pour s'occuper du problème de tzaraat, puisque lui il sait et il a montré par son exemple, il a montré personnellement, pas quelqu'un qui vous parle de façon abstraite, il a expérimenté la chose. Donc quand il vient regarder un tsarat, il pourrait très bien dire aux gens, faites tchouva immédiatement, même avant que je déclare quoi que ce soit. Le Kohen, il n'est pas obligé d'arriver quand il arrive au déboté, si vous voulez, immédiatement, il va déclarer tamé. Il va regarder, on va voir par la suite que dans certains cas, il va même prendre des mesures pour éviter justement d'avoir à déclarer qu'on a affaire ici à un tzoraat. Alors, enseigner aux gens le but du tzoraat, il va donner du sens au tzoraat et il va inciter donc les gens à faire tchouva de telle sorte qu'ils ne deviennent pas tmeim. C'est marqué dans le Torah de Kohanim, donc c'est le Midrash Halakha qui est sur le Sefer Vayikra, que le Kohen qui vient pour voir un néga, c'est-à-dire éventuellement constater que c'est un néga qui entraîne la Touma, il doit dire « Ometzora divrei kivushim », il doit l'inciter à faire tshuva. Et il doit lui expliquer pourquoi ça vient, de telle sorte qu'il puisse faire tchouva. Donc là, on comprend pourquoi, effectivement, la fixation de ces dynimes de Gaïm, de Tzarat, elle a été donnée à la descendance d'Aaron, au Kohanim, parce que, justement, quelque part, Aaron a montré qu'il avait bien compris et qu'il s'est ainsi pratiquement qualifié pour s'occuper de cela. Le verset dit, quand on dit Ve'uva et la Aaron à Cohen, on amènera la personne vers Aaron à Cohen, ou El Echad mi Banav à Kohanim, vers l'un de ses enfants, Kohanim. On entend ici que même la puissance, enfin, la force des Kohanim, le pouvoir dire quelque chose sur la Tzorat, elle vient de ce qu'ils sont les descendants d'Aaron. Echad mi banav akohanim. On aurait pu dire l'Echad akohanim. Banav. Leur force vient de ce qu'Aaron a pu faire. Rashi a expliqué. Dans le verset, c'est un peu étonnant, c'est marqué Ve'uva el Kohen. Ve'uva, ça veut dire on l'amènera. Rashi dit on entend ici Baal Kocho, son corps défendant. Pourquoi c'est pas marqué Uva el Kohen? Mais Atzmo. Parce que c'est pas marqué et qu'il vient tout seul. C'est un problème. Tu vois, on sait, problème Sarat. Faut s'adresser au Kohanim. Alors on apprend que ça vient nous dire ici que le Metzora qu'on doit maintenant amener devant le Kohen, à son corps défendant, c'est celui qui n'avait pas compris en son temps qu'il fallait aller chez le Kohen, parce que je vous rappelle que le Kohen, c'est celui qui enseigne la Torah. Il aurait dû aller chez le Kohen, écouter son enseignement. Et avec cet enseignement, il aurait dû améliorer sa conduite. S'il était venu seul, c'est-à-dire au sens qu'il serait venu étudier, alors le néga ne serait pas venu sur lui, il n'aurait pas eu besoin d'être amené au Kohen. Même le fait qu'il faille amener, bon, Rachidi Ksebal Kokro, il y a une marloquette là-dessus. Mais en tout cas, la page toute, le où va, on entend ici que, a priori, c'est à son corps défendant. Mais ça veut dire que quelqu'un peut décider, moi, j'y vais pas. Après, bon, le Bédine va venir le chercher, le cas échéant. Et lui, il pourrait s'imaginer, bon, moi, j'y vais pas. C'est un déni. Il nie qu'il a reçu un message et que par conséquent, il y a quelque chose à arranger. S'il a reçu un message, c'est qu'il y avait lieu de lui envoyer un message. C'est effectivement ce que dit le Kli Yakar. Donc ici, on a de nouveau un exemple où la Torah nous enseigne qu'il faut faire tshuva pour éviter les problèmes, éviter les sanctions et les souffrances. Et Hachem nous aide. Il envoie des messages. Le tzaraat n'est pas le seul message. Mais justement, si vous voulez, le tzaraat, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas aujourd'hui? D'une certaine manière, on n'est pas assez proche d'Hachem qui nous envoie ce genre de messages. Mais il nous envoie toujours des messages. Seulement, comme on est plus loin d'Hachem, les messages ne sont pas toujours aussi clairs. Donc on voit que Aaron a été zoché d'être celui qui va s'occuper du problème de Touma et de Tahara, en particulier donc de Tzaraat, parce que Aaron a fait tshuva, il a immédiatement tenu compte du message. Alors, on va donner un autre exemple d'abord. On va aller regarder Nigae Batim, les Negaim qui frappent les maisons. Alors, pourquoi est-ce que les Negaim qui frappent les maisons, on dit en français aussi une maison lépreuse. Alors, quelque part, la maison lépreuse, la maison qui est frappée par un Negaim, progressivement, on va devoir éventuellement enlever les pierres qui sont touchées par qui sont marquées par cette lèpre, éventuellement détruire un peu plus, et éventuellement jusqu'à détruire complètement la maison. Mais ça sera très progressif. Alors, il y a un petit problème, enfin, c'est pas un vrai problème, mais il y a une certaine ambiguïté. C'est marqué dans le pasouk, Venatati negat soraat bevet eretz achuzatrem. J'enverrai du tzaraat, donc cette lèpre, sur les maisons dans le pays en Eretz Israël. Cette histoire-là, elle n'existe que en Eretz Israël. Et Rashi ramène, en fait, un midrash que vous connaissez probablement. Donc, ce verset-là dit « Venatati », s'il annonce, j'enverrai. Donc, c'est une besoura, c'est une annonce. Hachem dit « Je vous enverrai des Negaïm ». Merci, on n'en a pas besoin. Pourquoi tu nous envoies? Qu'est-ce que ça veut dire « Je vous enverrai » On a l'impression que j'enverrai, même si, d'une certaine manière, on ne nous dit pas, le pasouk ne dit pas, si vous faites ceci ou cela, vous en verrez. Il y a un verset qui dit, Venatati, j'en verrai. Alors, Rashi ramène ce midrash, il dit, Besourahi ilahem. C'est une annonce qu'il aurait faite au Bnei Israël. Shangaim Baim Alem, qui vont être frappés par des Negaim. Et pourquoi cela? Le fiche Itzminu Emoreim Matmonim Shezav Kirot Batehem Kol Arbaim Shana Shayu Israel Bamidbar. Voilà une toute autre raison pour les Negaïm. Ici, dans ce midrash-là, que Rashi ramène, n'a strictement rien à voir avec une faute. Ce n'est pas du tout un message qui te dit qu'il faut faire tshuva. C'est un message qui annonce une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, on voit dans la Shira, on voit qu'il y a eu une panique complète chez tous les peuples. Ils se sont demandé comment c'est possible. Il arrive là quelque chose de totalement, seulement improbable, mais incompréhensible, absolument incompréhensible. Donc, personne, tout le monde était complètement figé, paralysé devant les Bnei Israël qui avançaient. Alors, il y en a bien un qui a réagi, ça vous connaissez, c'est Amalek. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Tout le monde était figé, tout le monde était paniqué en quelque sorte. Et durant ces 40 ans de tribulation des Bnei Israël, qui allaient, qui venaient, les peuples qui étaient touchés, qui allaient être touchés, étaient sur le chemin des Bnei Israël. Ils ont pris des mesures, ils ont décidé de cacher leurs trésors dans les murs de leur maison. Ils ont eu peur que les Bnei Israël viennent et leur piquent leurs trésors. Ils se sont dit, on va les mettre dans les murs des maisons, donc ils ne les trouveront pas. Alors, Hachem dit, j'enverrai des Negaïm. Et dans la procédure des Negaïm, on peut être amené à faire des trous dans les murs des maisons, enlever certaines pierres, ou comme je vous ai dit, éventuellement, de détruire totalement la maison, les murs de la maison, les pierres, on va les faire. Donc, on va trouver les trésors. Donc, voilà. Tout à coup, dans la paracha où on parle des Negaïm, donc qui frappe le corps, qui frappe les vêtements, quand on vient parler des Negaïm des maisons, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est présenté comme quelque chose. C'est un vrai cadeau. Le Surat Tova. C'est une annonce réjouissante. Mais c'est incompréhensible. La Gemara, elle dit clairement dans Masechet Erchin que Kolam saper la shonara negaim baimalav. Toute personne qui dit de la shonara, les negaim le frappent. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire. Les Negaïm ont frappé la maison de celui qui a dit de la Shonara aussi. Il y a aussi d'autres raisons, mais pour l'instant, on va regarder celle-là. Et voilà. On a un cas classique qui est normalement inacceptable, qui s'appelle Chote Niskar. C'est-à-dire, celui qui a fauté, il y a gagné. Parce que puisqu'il a fauté et que la maison a été frappée de Negaïm, alors, il a trouvé le trésor. C'est insupportable comme idée. Alors, dans le Zohar, il y a la question. Il dit que si le but des Negaïm Batim, des Negaïm qui frappent les maisons, c'est d'enrichir les Bnei Israël, alors, On aurait très bien pu, même quand on détruit la maison, on aurait pu, une fois que la maison est détruite, qu'on a trouvé le trésor, on peut réutiliser les pierres qui, enfin, tout le matériel qui va nous permettre de reconstruire la maison, de reconstruire la maison avec les mêmes éléments. Parce que dans ce cas-là, voilà, c'est le but. Les Negaïm étant qu'on trouve le trésor, on a trouvé le trésor, on peut reconstruire. Mais la Torah, elle ne dit pas comme ça. La Torah, elle dit que quand on déconstruit la maison, on va être obligé de prendre pour reconstruire de nouvelles pierres. Les pierres, la poussière, enfin la terre, etc., on doit les jeter en dehors de la maison, en dehors de la ville, une décharge publique. C'est comme ça. Mais maintenant, et de plus, les horreurs. Si dans les Negev Batim, on n'est pas en train de faire quelque chose qui va enlever la Touma, parce que c'était ça, il n'y avait pas de Touma. On a seulement détruit pour trouver les trésors. Alors pourquoi est-ce que c'est marqué, dans le Passouk, c'est marqué, Velakach la tête, et Abayit, Tsiporim, pardon. Pourquoi il y a une procédure de purification? Il n'y avait pas de Touma dans cette maison. Pourquoi il faut, qu'est-ce qu'il faudrait purifier? Part ça, il reste la question fondamentale. S'il s'agit d'enrichir les Bnei Israël, la Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre solution que de détruire les maisons. Causer. Parce que finalement, tu détruis la maison, tu as trouvé un trésor, mais ça coûte cher de reconstruire une maison. Donc, d'un côté, tu me donnes un cadeau, d'accord? Et puis ensuite, tu me causes un dommage. Alors, le Halcher, la chair, c'est. Moshe Alcher, c'est un des kabbalistes de l'époque du Harizal, de la grande époque à Tzfat. Il a écrit un sefer qui s'appelle Torah Moshe, sur la Torah, sur les Parshiot. Et il dit, Re pe'amim rabot, lo nimtza shum matmon bebeit hamnouga. Mais très souvent, dans les maisons lépreuses, on trouve aucun trésor. Alors, où est la Tova ici? On a détruit sa maison et il n'a aucun trésor. Il a une perte sèche. Revenir sur ce que l'Agmara disait. L'Agmara, enfin, il dit toujours. L'Agmara dit, « Kolam saper la shonara, negaim baim alav. » Celui qui raconte du Lachonara, on va essayer de comprendre ce qu'on répond à ces questions. On reprend le début. Le Chafetz Chaim, qui, comme chacun sait, a écrit le Shulchan Aruch sur le Lachonara, le Shulchan Aruch dit, demande, pourquoi Madoua Biyamenu en Baïn Negaïm al Balé Lachonara? Pourquoi aujourd'hui n'a-t-on pas de Negaïm sur ceux qui disent du Lashon Hara? C'est marqué Zot Torah, Zot HaTorah. Quand c'est marqué Zot HaTorah, la Torah, elle n'est pas limitée aux quelques années durant lesquelles il y a eu effectivement de Negaïm. La Torah, elle est éternelle. Marqué, la Torah est que. Si tu dis Lashon Hara, tu as un Negaïm. On voit très bien qu'on n'a pas de Negaïm. Demande le Chafetz Chaim. Alors, certains répondent En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, le tsarat sur le lashon hara, il y en a aussi aujourd'hui. Ça veut dire, cette anaga-là, elle existe. Mais exactement comme en son temps, il fallait être raoui, il fallait mériter en quelque sorte d'être sanctionné de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en vérité, les négaïm sont donc la résultante du lachonara qui vient en collisionner en quelque sorte. La gdusha de la personne. La gdusha, un ben Israël, il a de la gdusha. Donc il y a une espèce de collision entre le lashon hara et la gdusha de la personne, et la résultante, c'est les négaïm. Un peu sur le, si vous voulez, sur le modèle de ce qui se passe dans la procédure de la sota. La sota est l'ingurgite de l'eau dans laquelle on a effacé le Shem Hashem. Donc elle met le Shem Hashem en elle. Donc, il y a collision entre le Shem Hashem et ce qu'elle est. Si la personne était adultère, la collision, elle provoque la mort. Si la personne n'était pas adultère, alors il y a une amplification des qualités, enfin des possibilités de cette personne, et si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura, si elle a des garçons, elle voudrait des filles, elle aura les filles, etc. Elle aura une bracha. La bracha, elle est la résultante de la collision entre le Shem Hashem et la kedusha de la personne. Ok, donc c'est une bracha, ça amplifie la bracha. Et à l'inverse, si la personne n'est pas, si l'intérieur ne peut pas supporter la présence divine, c'est un peu toujours, c'est tous les processus, y compris les grands processus dont on parle, de Shirat HaKelim, de la lumière qui était trop, il y avait trop de lumière et donc il n'y avait pas de Kelim pour la recevoir, donc il y a eu explosion. Et ça a donné toutes les fameuses étincelles, etc., toutes ces théories, toujours un problème de réaction. Mais là, il y a, en son temps, c'était comme ça aussi. Probablement qu'il y avait des Rechaim qui ne recevaient pas de message. Ils ne méritaient pas, parce qu'en quelque sorte, il n'y a pas suffisamment de Gdoucha en eux pour produire les Negaïm avec le lashon hara. Vous comprenez, c'est les négaïms sont la production, c'est une production qui nécessite une certaine énergie en quelque sorte. Et l'énergie, elle est donnée par le fait que il y a beaucoup de gdusha, et cette gdusha, elle supporte pas le lashon hara. Parce que s'il y a pas tellement de gdusha, le lashon hara il n'est pas tellement dérangeant pour la personne. Donc, nous ne sommes pas à la hauteur d'être dérangés par un lashon hara. Le principe, il est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. C'est effectivement, ça c'est la théorie du Alcher, justement, Moshe Alcher, qui dit que Bisman Shenitmaata Agdusha, à partir du moment où l'Agdusha a dégringolé, bon, ben alors, ça ne marche pas, il n'y a pas. Le Ramban le dit aussi, Yot Israël Shlemim Lachem, tout ça c'était quand les Bnei Israël étaient entiers avec Hachem. Alors quand les gens étaient à ce niveau de Agdusha, et qu'il leur arrivait un accident. Alors cet accident, il produisait effectivement une énergie suffisante pour fabriquer le néga. Les nigé batim, d'où viennent les négaïm qui sont là pour, uniquement pour dévoiler les trésors? On a déjà vu souvent. On peut s'étonner. Je m'étonnais souvent, toujours d'ailleurs. Comment est-ce que on peut comprendre que la Torah nous a dit, vous allez arriver en Eretz Israël, enfin, dans l'Eretz Knaan en fait, et vous allez trouver des arbres chargés de fruits, des vignes, vous n'aurez qu'à récolter. Vous allez trouver des maisons, vous pouvez vous installer, vous pouvez tout prendre. La seule chose que vous ne pouvez pas récupérer, c'est d'éventuels hôtels. Ils ont construit des hôtels pour leurs idoles, ça il faut détruire. Ou s'il y a des arbres sacrés, il faut détruire ça. Mais toute la structure de la société qui n'est pas consacrée, tout ce qui n'est pas consacré à l'idolâtrie, vous pouvez l'utiliser. Alors, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de mal à comprendre comment on peut utiliser ça. Vous imaginez bien que quand un idolâtre a planté un arbre, il a planté un prunier ou une vigne, etc. C'est sûr qu'il a fait des sacrifices à ses idoles. C'est impensable qu'il n'ait pas sacrifié, éventuellement même des sacrifices humains. Si ça se trouve, ce sont des sacrifices à abreuver, c'est un engrais, ça a abreuvé la terre sur laquelle cet arbre a poussé, cette vigne a poussé. Comment on peut comprendre que la Torah nous dise « Allez, prenez !» On va faire des brachot sur les produits, c'est incompréhensible. C'est comme ça, la Torah, elle l'a permis. Mais là, tout à coup, on va dire, les Bnei Israël, ils sont donc entrés en Eretz Israël, en Eretz qui était Eretz Knaan, dans la Torah, et puis ils ont habité dans des maisons qui étaient des maisons cananéennes. Je me demandais aussi, les maisons cananéennes, elles ne sont pas du tout architecturalement construites comme des maisons juives. D'accord, la tzniout n'est pas le principal. Vous n'avez pas, pour donner un exemple, vous avez, dans une maison construite par des idolâtres, à la limite, le lavabo qui sert à se laver les mains en sortant des toilettes, il est à l'intérieur des toilettes. Mais chez nous, on le met à l'extérieur. Et ça n'a pas de sens. On ne peut pas se laver les mains à l'intérieur. Ou alors, éventuellement, d'après certains, si on se lave les mains, qu'on ne les explique qu'à l'extérieur. Enfin bref, quand on construit une maison, on ne construit pas une maison comme les goïms. On ne met pas les pièces. Il y a des problèmes de tzniout, la chambre à coucher, on ne la met pas à un endroit où on peut tomber dans la chambre à coucher simplement en entrant dans la maison. Or, chez les Cananéens, il n'y avait pas ce genre de problème. J'ai toujours pas compris d'ailleurs comment il se fait que la Torah nous ait permis d'utiliser tel quel ce qu'on a trouvé. Moi, bien sûr, peut-être que je suis un peu trop extrémiste, genre moi j'aurais dit on rase tout ça et on recommence. Mais c'est pas comme ça. Mais par contre, là on le voit. Ils sont installés dans les maisons des Cananéens. Alors, il y avait certains Cananéens, probablement, qui étaient plus idolâtres que d'autres et qui ont marqué leur maison de leur idolâtrie. n'étaient peut-être pas simples, peut-être eux-mêmes, dans leur construction, ils ont eu une construction avec une réflexion idolâtre. Donc, il y a eu, si vous voulez, sur certaines maisons, une trace. Et du coup, on a de nouveau cette collision entre la Kedushat Israël et la trace idolâtre. Dans certaines maisons, la trace idolâtre était plus forte que les autres maisons. Dans ces maisons-là, il y a eu explosion, là, c'est-à-dire il y a eu Negaïm. Et du coup, on a détruit la maison. Donc, on a dû faire toute une procédure de tahara, de purification par rapport à l'idolâtrie. Dans le Zohar, on le dit un peu comme ça. Dans le Zohar, on dit il y avait des maisons cananéennes qui ont été construites, le Shem Avodazara, des maisons qui ont été dédiées à l'idolâtrie. À une idole, par exemple. Pourquoi ils ont, comme elle, ont construit des maisons ou des bâtiments sous le patronage de telle et telle idole ou saint ou machin, etc. Là, ça, c'est dit le Zohar, ça, c'est des maisons qui sont co-marquées d'idolâtrie. Et là, la collision entre la Kedushat Israël et l'idolâtrie a produit le tsaraat en question. De telle sorte que les Bnei Israël viennent et détruisent cette maison. Alors, peut-être qu'il y avait encore en prime des trésors, mais ça a un sens aussi de détruire la maison. Parce que cette maison ne permet pas à Ben Israël de vivre pleinement dans cette maison. Il ne le sait pas, peut-être qu'il n'est pas tout à fait conscient, mais en fait, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire parce que l'ambiance de la maison est une ambiance idolâtre. Ça, c'est quelque chose qu'on expérimente très souvent. Vous entrez dans une maison, il y a une ambiance dans la maison. Vous sentez, il y a des maisons dans lesquelles on se sent bien et des maisons dans lesquelles on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi. Pas très agréable. Elle peut être très très belle, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas très agréable. Par conséquent, parce que c'est pas très agréable, ben on n'en a pas envie, quoi. Et là, ça empêchait vraiment de faire ce qui devait être fait. Et donc, du coup, c'est maintenant l'enseignement pour nous aujourd'hui de cette paracha directement. C'est que la Kedusha, pour y mettre, enfin, dans une maison, il faut installer de la Kedusha, telle sorte de créer cette ambiance de Kedusha qui doit être porteuse, en fait. Et il faut éloigner tout ce qui crée tout ce qui est de la Touma en réalité, qui crée un climat, qui est une ambiance qui est contraire à la Kedusha. Donc, c'est-à-dire des influences extérieures, bon, ça veut dire à la limite. Je dirais, il ne faut pas prendre un décorateur qui viendra avec des motifs de décoration qui ne sont pas de chez nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Donc, il faut réfléchir. Il faut créer. Il faut, On doit marquer son territoire. Quelqu'un qui, quand la personne allait en vacances, elle prenait de la maison, elle prenait des éléments, des photographies, des éléments pour recréer dans la maison dans laquelle, dans la maison de vacances, créer l'ambiance de la maison en quelque sorte. Ah, suivant où vous allez en vacances en France, il faut décrocher tous les crucifix, il faut, etc. Il y a toutes sortes de. Voilà, vous avez une bibliothèque avec, si vous allez en Bretagne, je sais pas où, avec tous les journaux illisibles parce que qui sont dans le Lazara, pas mal. Par exemple, il faut savoir quel genre de magazine on va laisser traîner dans la maison. On sait très bien que ça a un impact. On pense toujours qu'on est au-dessus de tout ça. D'abord, même à supposer qu'un adulte soit au-dessus, mais peut-être qu'il y a des enfants, des adolescents, ou des invités qui, eux, ne sont pas au-dessus de ça. Je voudrais revenir en arrière à la fin de dans Parchat de Tazria, vers la fin, au chapitre Yud Gimel, Pasuk Mem Alef. Yud Gimel, Mem Alef, etc. Une paracha spéciale. Parasha, elle dit « V'ish ki yemaret rosho kereachu tahoru » etc. Toute une parasha qui concerne la tête. La tzorat, elle peut se manifester sur n'importe quelle partie du corps. Et on a traité tout le corps, enfin toutes les parties du corps sont traitées jusque-là. Et là, tout à coup, pour la tête, il y a un traitement à part. Alors, le Mesher Chochma, il dit le principe de Mida, Keneged Mida, n'est pas Batel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans la Torah, il y a des peines de mort. Il y a quatre sortes de peines de mort qui sont données. Et les peines de mort, chaque peine de mort correspond à certaines spécificités de transgression. Il y a des transgressions qui, si vous voulez, qui concernent le corps, il y a des transgressions qui sont plus intellectuelles, des fausses, etc., avodah zarah, etc. Donc chaque fois, il y a une sanction avec la peine de mort, ad hoc. Des transgressions qui méritent la mort en quatre catégories. Et ça fonctionne sur le principe de Mida Keneged Mida, c'est-à-dire il faut que dans la sanction, il y ait un reflet de la faute. Le cas très très connu, c'est le cas d'une femme qui appartient à une famille de Kohanim et qui est adultère. Mais parce qu'elle appartient à une famille de Kohanim, sa sanction sera plus forte que la sanction d'une autre femme qui serait adultère dans les mêmes conditions qu'elle, mais qui ne serait pas Kohen, qui ne viendrait pas d'une maison de Kohanim. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit que par cet adultère, elle profane la maison paternelle. Parce que les gens vont dire, c'est Kohanim, en fait, qui normalement doit faire très attention à toutes sortes de choses. Ils n'ont pas vraiment fait suffisamment attention. On va dire qu'elle a mal été éduquée dans une maison de Kohanim, donc il y a une profanation de la Kehuna. Et du coup, ça entraîne qu'elle passe d'une catégorie à une autre, c'est-à-dire il y a une hiérarchie en fait des peines de mort, elle passe vers une peine de mort plus grave, bon, il sanctionne plus grave, parce qu'en même temps, il y a profanation de la Kehuna, juste pour donner comme cet exemple-là. Mais du coup, comme aujourd'hui, on ne donne plus de peine de mort, alors on pourrait penser que il n'y a plus le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, n'existe plus. Mais la Gemara, elle dit que si. La Gemara, elle dit que ça reste, et que quelqu'un qui a transgressé un certain interdit qui appartient à une certaine catégorie, il va finalement mourir, peut-être d'une mort qui apparaîtra naturelle, mais qui sera en rapport quand même avec la faute qu'il a commise. Et donc, on dit que la radinerie, la tsaroutaïn, quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui ne donne pas de tzedaka ou pas la tzedaka qu'il devrait donner, ça entraîne nigebatim. Hachem envoie des messages qui ne sont pas sur le corps, qui ne sont pas sur les vêtements, qui sont sur la maison. Quelques pierres de la maison sont lépreuses. Donc c'est un message, il devrait entendre ce message. Et ça, c'est Mida Keneged Mida. Il dit-il, ça veut dire, il faut comprendre en quoi le fait d'être radin et pas donner aux autres selon ce qu'on devrait leur donner, ça entraîne ça à voir avec la destruction de la maison. En quoi est-ce que c'est lié en quelque sorte? Alors, en fait, la Gemara dit qu'il y a sept raisons qui entraînent les négaïm. On va y revenir un peu plus tard. Et alors là, ici, on parle donc sur la tête. Et le verset dit « Ish ki maret rosho » Ish tsaruahu tamé. Cet homme, c'est un homme, ish tsarua, un homme lépreux, avec les guillemets, lépreux, et il est tamé. Alors là-dessus, donc, le Meshech Hochma dit, ça touche le problème de Mida Keneged Mida. Avant de revenir sur la question de la maison, ici, si le néga est sur la tête, le Meshach Roma dit, c'est certain que ou meshubash le koach ha-sechel ou bedeot zaot. La reine ba tzorat le kadachto ba koma marshava ou mishkana sechel. Pourquoi est-ce que la lèpre en question, elle vient sur son front et sur le haut du crâne, en fait? Parce que très certainement, cette personne, son cerveau est tordu, en fait. Il a naturalisé, il a accepté en lui des idées qui sont étrangères. C'est pour ça que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ça frappe l'endroit qui correspond à la pensée, au siège du Sechel, c'est-à-dire l'intelligence, c'est-à-dire le crâne, en fait, la partie frontale, en fait. Et maintenant, si les fautes qu'il a faites, c'est dans les midot, ou be kohot hanefesh, ou be peulot, bien dans les forces d'âme ou bien dans les actions, on a vu, comme je vous ai dit, al shivat varim negaim baim. Mara, elle dit, les negaim ils viennent pour cette cause. Alors, si on dit comme ça, eno meyuchad achet mitzad koach asichli amityachet bo adam. Ça veut dire que lorsque le sechel, on pourrait dire, mais tout vient du sechel en réalité. Donc c'est toujours la tête qui devrait être touchée. Comme ça. Si la faute, c'est une faute intellectuelle, une faute de sechel, alors c'est sûr que le néga va venir sur sa tête. Et c'est pour ça, par exemple, que une des causes de Negaim, c'est ce qu'on appelle Gassut Haruach. Littéralement, Gassut Haruach, ça veut dire épaisseur d'esprit, c'est-à-dire en fait grossièreté. Grossièreté comme un tissu grossier, n'est-ce pas? Pas des gros mots, c'est une grossièreté dans sa démarche, manque de finesse. Et une erreur qui vient du Sechel. Cette erreur-là, Gassut Haruach, finalement s'amène à Avodah Zara. En pasuk, Verom levavcha, shacharta. Si ton cœur s'élève, c'est-à-dire si tu t'imagines, ici on sait dans le mauvais sens, c'est-à-dire que si tu t'enorgueillis, alors tu oublieras Hachem, etc. Parce qu'en vérité, l'orgueil, c'est de se prendre pour Hachem. Donc, effectivement, ça mènera à Avodah Zara, parce qu'on va à Avodah Zara de soi-même, éventuellement. Donc, quand quelqu'un donc faute par son sechel, alors effectivement, qui est la caractéristique de l'être humain, c'est en cela qu'il est ish, c'est en cela qu'il est un ish et pas une béhéma, c'est un homme. Ça n'existe pas, ce genre de pensée n'existe pas ailleurs que chez l'être humain. C'est pour ça qu'on dit Ish Tsaruahu, Tamé. Il est un Ish Tsaruah. C'est-à-dire, dans son essence, il est essentiellement lépreux, en fait. Pourquoi ? Parce que ça touche son essence, la caractéristique qui est la sienne. C'est-à-dire la caractéristique de l'être humain. Lui, en tant qu'être humain, il est complètement touché par des pensées qui sont étrangères, etc. Donc, en fait, il n'utilise pas sa caractéristique humaine comme il se doit. Et donc, il a un message qui se marque sur sa tête. C'est pour ça que la tête, elle a un traitement à part, encore dans le détail de la Torah, qui n'est pas homogène avec le traitement du reste du corps. Les négaïm, elles viennent à cause du Aïnara, qui de parler dire de critiquer les gens qui sont plus grands que lui, etc., alors qu'il ne comprend rien du tout. Celui-là, effectivement, il va être frappé aussi par des négaïm. Le passouk dit dans Vayikra Rabba, Enaim Ramot, dans les sept raisons pour lesquelles les négaïm viennent, il y a Enaim Ramot, littéralement c'est ça l'orgueil, Lashon Sheker, le mensonge, Yadaim Shofrot Dam Naki, donc il tue, qui verse le sang, un sang innocent, Horesh Marshavot Avel, quelqu'un qui creuse des pensées tordues, des mauvaises pensées en fait. Raglaim Memarot Larutz Lara, quelqu'un qui, dans les jambes, court à toute vitesse pour faire le mal. Donc c'est celui qui fait en sorte que entre les frères il se brouille pour que les frères se brouillent, bien il laisse des mensonges se développer dans la société, etc. Donc c'est toutes des choses qui cassent la société en fait. Tout ça, c'est sanctionné par Tsaraat. Sur Gilui Arayot, ça vient aussi d'ailleurs, sur la Soutavouar, sur Gezel, sur Tsarutain. Toutes sortes de raisons qui sont des causes du Tsaraat. Non, je vous avais dit qu'il y a un laps de temps entre le moment où on constate les signes et puis le moment où le Kohen vient et dit c'est tamé. Alors, dans la Torah, c'est marqué que quand on vient chez un Kohen et on lui dit, il semble y avoir dans la maison là-bas de chez machin un problème, alors le Kohen donne l'ordre, avant d'aller là-bas, il donne l'ordre et il dit, il faut débarrasser la maison, il faut vider complètement la maison avant que je vienne voir le Néga. Parce que si il y a une déclaration de Touma sur la maison, tout ce qui est à l'intérieur de la maison est aussi tamé. Alors, pour préserver, en fait, le contenu de la maison, le Kohen dit, bah, sortez tout. Et quand je viendrai, ce que je dirai ne concernera que la maison elle-même. Donc, on voit ici que, en vérité, Rabbi Meir, il dit, mais pourquoi on fait tout ça? Le contenu de la maison, on a qu'à le, s'il est impur, on va le tremper, on va le purifier, on va le tremper dans le mikvé. Bon, alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut tremper. Et donc, finalement, la Torah, pourquoi la Torah est là? De quoi a-t-elle le souci, la Torah? Elle a le souci de quelques tasses, quelques objets qui sont en terre, qu'on ne peut pas purifier en les mettant dans le mikvé. On ne peut pas purifier un objet en terre. Les objets qui sont en terre, alors, bon, éventuellement engrais, enfin toutes sortes de. Alors, c'est seulement pour ces choses-là que le Kohen a dit il faut tout vider toute la maison pour éviter de perdre ces quelques objets-là qui peut-être n'ont pas une grande valeur, mais néanmoins, il y a un souci de tout. La Torah, elle veut absolument que, voilà, quand on mérite une sanction, on ne mérite que cette sanction et rien de plus. C'est la maison. Je voulais toucher de la maison. Voilà, on va s'arrêter là, parce que j'ai bien compris à peu près à l'heure. Oui, d'accord. On va s'arrêter là. Michel, voilà. Okay.